Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Soyez les bienvenus comme chaque jour sur France Bleu pour On se dit tout, l'émission où on prend le temps de se parler, où vous venez nous parler de vous sur tous les sujets possibles. Et on va parler aujourd'hui d'un sujet encore tabou, le fait de ne pas savoir lire ou écrire ou les deux. L'illettrisme qui touche 7% de la population adulte aujourd'hui en France, 2,5 millions de personnes. Et c'est peut-être vous qui pourtant êtes allé à l'école mais qui en êtes ressorti avec cette impossibilité de vous débrouiller pour remplir un papier, pour faire une candidature. Et que dire quand on a des enfants qui eux-mêmes vont à l'école et qu'on doit les aider pour leurs devoirs, par exemple? Racontez-nous votre histoire, votre parcours. Pourquoi, à un moment donné, ça n'a pas marché? Comment on grandit sans savoir très bien lire ni écrire? Comment on fait pour tenter de le cacher? Comment on décide aussi un jour de tout reprendre à zéro, peut-être? 0810 055 056 pour nous rejoindre. Avec aujourd'hui Gisèle Gelbert, orthophoniste, médecin neurologue, bonne fée même, diront certains, et auteur du livre Au cœur des apprentissages fondamentaux aux éditions Albin Michel. Bonjour et bienvenue Gisèle.
Bonjour.
Qu'est-ce qui fait que certains adultes aujourd'hui ne savent pas lire ni écrire? D'où vient le problème ou d'où viennent les problèmes?
C'est-à-dire qu'il faut qu'il y a plusieurs raisons. Il y a des enquêtes qui ont été faites et qui ont montré qu'il y avait trois catégories d'illettrés. C'est une enquête ancienne qui n'a pas besoin de pourcentage ni de chiffres. Vous avez ceux qui sont dans un environnement défavorable, c'est-à-dire que les familles sont perturbées, il n'y a pas d'environnement favorisant. Ceux qui ont décroché parce que ça ne les intéressait pas et disons que la pédagogie n'était peut-être pas adaptée. Et finalement, ceux qui vraiment ne sont analphabètes, c'est-à-dire ne peuvent ni lire ni écrire, ou ce qu'ils ont acquis est vraiment totalement insuffisant. C'est-à-dire, ils ont peut-être des relations entre le son et la lettre, mais c'est très variable et c'est très faux.
Eh ben, on va en parler avec vous. Qui êtes concerné, vous ou votre enfant aussi? On va faire le point sur votre histoire. Venez nous rejoindre et n'attendez pas, l'émission ne dure qu'une heure et ça passe très très vite. Je préfère vous prévenir.
Des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleu.
Vous ne saviez ni lire ni écrire, vous avez essayé de faire semblant et puis tout ça vous a rattrapé un jour. Venez nous parler de votre histoire. Aujourd'hui, on se dit tout sur l'illettrisme. Et si vous avez l'impression que vous êtes seul dans ce cas, sachez que plus de 2 500 000 personnes sont aussi en situation d'illettrisme après avoir été scolarisées. Il y a aussi des gens qui travaillent. Peut-être que vous vous reconnaissez, peut-être que la lecture, l'écriture, c'est pas votre fort, ça vous met mal à l'aise dès qu'il faut remplir un papier, envoyer un mail, faire un devis. 0810 055 056, c'est le numéro pour en parler sans juger, comme toujours, comme on le fait dans l'émission. Et aujourd'hui on se dit tout avec Gisèle Gelbert qui est notre grand témoin, auteur du livre Au cœur des apprentissages fondamentaux aux éditions Albin Michel. Et nous sommes avec Aurélien en Dordogne. Bonjour Aurélien.
Oui, bonjour.
Vous savez lire mais vous dites dyslexique.
Oui, voilà. Donc
ça a posé des problèmes?
Alors, pour faire simple, j'ai la quarantaine et on va dire que à l'époque j'étais quelqu'un de dyslexique et ça se on le savait pas. Ça m'a valu que j'ai réussi à redoubler mon CP tout simplement. Donc j'ai fait deux CP. Voilà, et ça m'a un petit peu frustré, j'ai eu beaucoup de difficultés à remonter la pente et à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas écrire correctement, voire même très mal. Et j'ai pourtant, et depuis peu, je vois une orthophoniste, mais c'est pas évident.
Comment on explique ça, la dyslexie? Ça, c'est vraiment votre cœur de métier en tant qu'orthophoniste.
Oui, c'est-à-dire la dyslexie, c'est bon, des difficultés à transcrire ou à interpréter ce qui est transcrit, à lire, et ça répond à l'orthophonie classique de façon habituelle. Hein, c'est-à-dire, ça ne donne pas une aisance totale, mais enfin, ça résout les problèmes. Et il y a des cas où justement, malgré l'application bien faite d'une orthophonie classique, où ça ne rend pas, d'une part, ou bien apparaissent d'autres anomalies, par exemple l'anomalie que nous appelons le découplage, où la lecture est peut-être correcte, mais la compréhension est nulle.
D'accord.
Et là, ça entre dans le cadre de ce que j'appelle les troubles de type aphasique, c'est-à-dire ce sont des fonctionnements neurologiques, mais sans lésions, si vous voulez, qui sont les mêmes que celles des aphasiques, et que moi je traite d'une façon tout à fait différente de celle de l'orthophonie classique.
Et comment vous avez fait Aurélien pour faire semblant, entre guillemets, parce que c'est pas évident, l'écrit ça marche pas, l'oral ça marche bien, c'est-à-dire qu'on mise tout sur l'oral?
En fait, j'ai fait beaucoup de d'orthophonie, des choses comme ça quand étant jeune, mais ça n'a jamais eu de solution. Après, ben, je vous dis, moi, actuellement, je travaille dans un poste à haut niveau. Je me suis toujours spécialisé dans la technicité. Donc, j'ai été développeur informatique, je suis géomètre, mais j'ai toujours évité donc tout ce qui était les rapports, les textes, des choses comme ça. Mmh. Et ben, surtout que je comptais aussi sur ma compagne pour corriger, pour rectifier les choses, et ainsi de suite.
Et vous en parlez ou vous évitez d'en parler ?
Je vais en parler, je me le cache plus, mais si on ne me pose pas la question, j'évite.
Mmh. Alors, en tout cas, vous en parlez, c'est bien aussi de pouvoir témoigner dans l'émission. Ça, c'est une vraie question. Les gens que vous croisez, vous, Gisèle, qui ont des difficultés d'écriture, de lecture, ils viennent après un long moment sans en avoir jamais parlé.
Ben, c'est-à-dire, ça dépend quoi, s'il s'agit d'enfants ou s'il s'agit d'adultes. Alors, chez les adultes, effectivement, j'en ai, ont surtout ces troubles que je vous décris, c'est-à-dire que ce sont des choses qui n'apparaissent pas, ils lisent et ils ne comprennent pas ce qu'ils ont lu. Alors ça les fait souffrir terriblement, et c'est le parcours du combattant, parce que rien n'est fait au point de vue orthophonie classique. Mmh. Voilà. Et donc, chez les enfants, c'est un peu la même chose. Hein, c'est-à-dire qu'il faut plusieurs années d'orthophonie sans résultat pour se rendre compte que ce n'est pas de ça qu'il s'agit.
Et souvent, ça met du temps à se, oui, à se alors, trouver, à se diagnostiquer.
Un exemple très précis d'un jeune homme de 24-25 ans qui vivait prostré dans sa chambre, qui communiquait avec personne et qui était analphabète, mais totalement. C'est-à-dire, quand il lisait, c'était A, O, P, F, tout à fait erroné. Et par écrit, c'était pareil. Et donc moi je l'ai reçu, j'ai fait un diagnostic de trouble de type aphasique et le travail a commencé, c'est un travail qui est assez long, mais dès le début il s'est senti transformé, il est sorti de son appartement, il est allé même faire signer une pétition sur les boulevards et il était heureux comme tout et ils disent qu'ils sont heureux dans leur tête. Donc si vous voyez, c'est un fonctionnement qu'il faut remettre en place.
Aurélien, merci beaucoup de nous avoir appelé, d'avoir ouvert cette émission. On parle aujourd'hui de l'illettrisme dans On se dit tout. Si vous aussi vous avez des difficultés à lire, à écrire ou si vous avez venez nous rejoindre au 0810 055 056.
Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
Au début, vous disiez que vous aviez oublié vos lunettes et que vous ne pouviez pas lire. Pour d'autres, c'était la trousse. Ah, j'ai oublié ma trousse, je ne peux pas écrire. Et puis pourtant, vous êtes allé à l'école. Pourtant, vous avez fait comme tout le monde. Et puis, vous avez décroché. C'est ça, l'illettrisme, ne pas maîtriser les bases de l'écriture ou de la lecture alors qu'on est allé à l'école. Et ça concerne bien plus de monde qu'on ne l'imagine. C'est peut-être votre histoire à vous aussi. Aujourd'hui, on a décidé d'en parler. On vous donne la parole sur France Bleu au 0810 055 056. Comment vous avez fait pour le cacher? Comment vous avez fait peut-être pour en parler et vous en sortir? On se dit tout avec aujourd'hui Gisèle Gelbert qui est notre grand témoin, auteur du livre Au cœur des apprentissages fondamentaux aux éditions Albin Michel. Il y a les adultes et puis il y a aussi les enfants. On se retrouve aujourd'hui avec des enfants qui vont à l'école et qui ne savent ni lire ni écrire et face auxquels les enseignants et les parents ont beaucoup de mal. On se dit mais qu'est-ce qu'on a mal fait et qu'est-ce qu'on peut faire?
Oui, puis ces illettrés dont vous parlez sont peut-être les petits-enfants qui étaient avant eux et qui avaient ces mêmes difficultés. Parce que si on n'applique pas des méthodes particulières pour soigner ce trouble du langage, ben ça reste comme ça et ça s'aggrave.
Vous êtes remonté très très loin, vous, pour expliquer justement le fonctionnement du langage. Vous remontez jusqu'à Néandertal.
Enfin, oui, c'est Néandertal me permet d'utiliser ce que j'ai trouvé avec les enfants. C'est-à-dire comment le langage a été créé au départ. Mmh. Alors pourquoi, ça c'est métaphysique, c'est pas mon problème, mais savoir comment il a transformé, si vous voulez, des bruits au extérieur ou des onomatopées, des bruits qu'il produisait lui-même, pour en faire des phonèmes. Et les phonèmes, c'est-à-dire que c'est dans la syllabe avec la voyelle, parce qu'il produisait des voyelles, il s'appelait ou, ah, n'importe quoi. Ah, donc c'est là que les bruits sont devenus des phonèmes et ont servi à faire des mots. Petit à petit.
Voilà. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que tout le monde peut se rééduquer à la parole, à la lecture, à l'écriture?
Tout le monde, c'est-à-dire, oui.
On a tous la capacité.
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, on est fait pour ça. On est fait pour parler, on est fait pour écrire aussi. Et ça, écrire, ça a été, moi je le dis depuis très très longtemps, mais ça a été au point de vue neurologique, ça a été prouvé récemment. On est fait pour lire et pour écrire et pour parler.
Mais encore faut-il peut-être en parler pour pouvoir se faire aider aussi.
Alors, pour parler, il faut un modèle, il faut quelque chose à reproduire. C'est pour ça que je vous disais que le petit Néandertal a besoin du père. Et que c'est le père qui crée la parole et le petit va l'imiter. Mais j'ai donc... voilà.
Quand on ne maîtrise pas ces compétences-là, on s'isole aussi beaucoup.
Ah ben oui, ah oui. Vous voyez, ce garçon dont je vous parlais, il sortait avec des copains et quand il prenait le menu, il n'arrivait à rien lire et il prenait trois fois la même chose. Alors les autres ont trouvé ça bizarre et on ne l'a plus invité après.
Ouais.
Donc il en était très malheureux.
Et au travail, pareil. Comment on fait pour cacher ça aussi longtemps à ses collègues, à son employeur?
Oui, ils y arrivent. Et je vous dis, en particulier, ceux qui lisent très bien, mais qui ne comprennent pas. Et ce n'est pas du tout une question de comprendre la grammaire, la syntaxe, etc. C'est un processus mécanique de linguistique qui fait qu'ils arrivent quelquefois à avoir des postes importants et se débrouillent.
Mais quelle gymnastique quand même, hein.
Oui.
Pas
oui.
évident. Il y a Laura au Standard qui nous dit qu'il y a eu un très joli téléfilm qui est passé sur France 3, Illettré, qui a été diffusé le 18 septembre avec Sabrina Ouazani et Kevin Azé. Ça veut dire qu'on en parle aujourd'hui. Avant, on cachait un petit peu, il y avait ce côté tabou. Aujourd'hui, voilà, il y a un téléfilm, on en fait une émission de télé,
faire quelque chose.
Des livres.
Je vous dis, ça fait 30 ans que je connais les groupes de lutte contre l'illettrisme. Il faut faire quelque chose. Alors, au niveau des méthodes, bon, mais ça, c'est l'affaire de M. Blanquer à l'école pour qu'il y en ait le moins possible qui se débrouillent mal quand ils ne sont pas très doués pour ça. Et puis, il y a le diagnostic de troubles de type aphasie qui va faire les vrais analphabètes. Ben, il faudrait que ce soit connu et qu'on les dépiste. C'est facile à dépister, on n'a pas besoin de faire passer des quantités de tests. Il suffit d'un examen, d'une visite.
On en parle avec vous aujourd'hui sur France Bleu et on vous attend surtout pour le faire parce que cette émission est pour vous. C'est vous qui prenez la parole chaque jour. On parle de l'illettrisme aujourd'hui avec vous qui êtes concerné ou qui avez été concerné à un moment de votre vie.
Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
Ne pas savoir lire quand on a 6 ans, ça arrive, mais quand on en a 15 ou 30 ou 45, c'est plus difficile. Difficile à accepter, à comprendre et difficile aussi de l'avouer. Du coup, on fait comment ? On fait semblant, parfois, on évite le sujet, les circonstances qui nous mettent mal à l'aise, on trouve des prétextes, on apprend par cœur, on trouve des parades. Peut-être que vous vous reconnaissez dans cette description, vous qui avez du mal avec la lecture, avec l'écriture, comment tout ça est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'école ou qu'est-ce qui ne s'est pas passé plutôt? Et puis comment vous le gérez au quotidien dans votre vie de tous les jours, votre travail avec vos enfants? 0810 055 056, je ne sais pas lire ni écrire. C'est le sujet dont se dit tout avec vos témoignages et en compagnie de Gisèle Gelbert, auteure du livre Au cœur des apprentissages fondamentaux, parler puis écrire puis lire chez Albin Michel. Et on part en Savoie rejoindre Marianne. Bonjour Marianne.
Bonjour.
Vous aidez les enfants qui ont ces difficultés d'apprentissage et notamment de la lecture.
Oui, tout à fait. Donc, des enfants qui sont en difficulté, qu'ils aient 6, 8, 10, voire des ados. Et donc, je les mets en situation d'écriture pour déclencher le phénomène de la lecture, enfin l'envie de lire.
Et ça marche ?
Eh bien, ça marche assez bien, oui, parce que en fait, souvent, les enfants sont en retrait devant cette situation de lecture, étant donné qu'ils sont en difficulté. Et souvent, ils ne comprennent pas que l'écrit, en fait, c'est un message qui leur est adressé. Alors, ça peut être des petits messages, bien sûr, mais ça peut être aussi un livre qu'on leur demande de lire. Et ce livre, il a été écrit pour être lu. Et donc, s'ils n'ont pas envie de connaître ce que les autres peuvent mettre à leur disposition, évidemment, ils restent en situation de blocage. D'où l'intérêt de les faire écrire par eux-mêmes. Au départ, évidemment, c'est un peu difficile, mais ils comprennent très vite qu'ils sont capables d'écrire des petites choses qui prennent de l'ampleur. Et quand ils sont lus par les autres, du coup, la motivation démarre et ils appréhendent la lecture avec une plus grande envie, donc plus grande facilité.
Alors là, je me tourne vers notre grand témoin, vous qui êtes neurologue, Gisèle. C'est deux, alors sans rentrer trop dans les détails, mais c'est deux choses différentes dans le cerveau et dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture?
Non, disons que il y a un ordre chronologique et hiérarchique, c'est-à-dire que tout commence avec la parole. Et en français, on a l'écriture et la transcription de l'oral. Et elle est destinée à retourner à l'oral. Alors les questions de plaisir ou autre, moi je les mets un peu de côté, mais je pense que là, ce que dit madame, c'est intéressant parce que ça rejoint ce que dit mon sous-titre de livre, c'est-à-dire c'est parler, puis écrire, puis lire. C'est-à-dire que tout texte inerte, c'est-à-dire un texte de livre qui est présenté, en fait, il a été écrit par quelqu'un.
Oui, c'est donc ce que disait Marianne,
il y a eu un proposé oral qui a disparu et qui a laissé une trace. Et donc cette trace, elle est virtuelle et je l'appelle le fantôme. Et il y a en pathologie des anomalies où, en fait, il arrive que ce fantôme soit de mauvaise qualité ou n'existe pas, ou bien que le proposé oral refuse d'entrer ou qu'il n'est pas fonctionnel. Et donc on rejoint ce que dit madame un petit peu, mais je pense que l'un va avec l'autre.
Et redonner plaisir et goût à la lecture, ça doit être aussi très enrichissant pour vous, Marianne.
Oui, bien sûr. Ce qui est surtout intéressant, c'est de s'apercevoir que les enfants retrouvent une certaine confiance. Qu'en fait, bon, ceux qui ne sont pas entrés du tout dans l'apprentissage, c'est sûr que de toute façon, quelque part, c'est une sorte de nouveauté. Mais pour ceux qui sont entrés et qui ont laissé cet apprentissage de côté parce qu'ils avaient trop de difficultés, alors ça, c'est une renaissance en quelque sorte. Donc c'est ça qui est vraiment plaisant et très enrichissant.
Comment ça va à l'école, Gisèle Gelbert? Est-ce qu'aujourd'hui, on fait tout bien pour que les enfants aient ces fondamentaux de lecture, d'écriture?
Je ne sais pas, parce que je pense que il y a un côté mécanique, instrumental, dont parle Blanquer d'ailleurs, qui est indispensable et qu'il ne faut pas mélanger avec le reste. Parce que là, donc, ce que fait madame, c'est très bien, c'est ce qu'il faut, et ça s'adresse à ceux qui ont décroché, comme on disait, c'est ça. Mais lorsqu'il y a des troubles de type aphasique, lorsqu'il y a des difficultés structurelles à réunir l'écrit et l'oral, eh bien là, ça ne fait absolument rien.
Il faut
faire une rééducation et un travail spécialisé, et ça n'est pas rare.
Ouais. Marianne, merci beaucoup et bravo pour tout ce que vous faites avec ces enfants, pour leur redonner le goût de la lecture et de l'écriture parce que ça va avec. À bientôt Marianne,
merci
beaucoup. Vous aussi, vous avez du mal à écrire, à lire, vous avez eu du mal et aujourd'hui, ça y est, c'est reparti. Venez nous en parler, venez nous rejoindre sur France Bleu au 0810 055 056.
Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
L'illettrisme, on en parle aujourd'hui dans On se dit tout, l'illettrisme qui a été érigé en 2013 grande cause nationale, ce qui veut dire que normalement des choses ont été mises en place pour repérer, pour aider. Si c'est votre histoire, on vous attend pour nous rejoindre et en parler sur France Bleu au 0810 055 056. Vous êtes pourtant allé à l'école mais vous en êtes sorti sans ces fondamentaux ou alors vous avez été déscolarisé très tôt. On parle de l'illettrisme, la définition est simple, ce sont des adultes qui ont été scolarisés en France mais qui ne parviennent pas à comprendre un message simple en le lisant ou à se faire comprendre en écrivant, comme les courses, une fiche d'inscription pour le sport, un contrat de travail. Évidemment, au quotidien, c'est très handicapant. Alors aujourd'hui, on ne juge pas, vraiment, on ne le fait jamais ici. On cherche juste à en parler avec vous qui êtes directement concernés ou qui l'avez été à un moment donné. Notre grand témoin est médecin neurologue après avoir été orthophoniste. C'est Gisèle Gelbert qui est notre grand témoin avec son livre « Au cœur des apprentissages fondamentaux, parler, puis écrire, puis lire » chez Albin Michel. On parle beaucoup de psychologie des enfants, la psychologie de l'enfant, ça revient énormément à partir du moment où il y a une difficulté à l'école. Ça vous énerve un petit peu, ça, Gisèle?
Oui, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des difficultés, elles peuvent être intrinsèques, elles peuvent être réactionnelles à ces difficultés-là. On peut avoir des réactions psychologiques, mais de considérer que la réponse à la persistance de difficultés de lecture et d'écriture alors qu'on a appliqué tout ce qu'on savait, de dire que c'est psychologique, c'est une erreur. Parce que on les fait aller sur des voies de garage qui ne les concernent absolument pas et que ça développe d'autres troubles.
Quand je dis l'illettrisme a été érigé grande cause nationale en 2013, ça veut dire que des choses ont été mises en place aujourd'hui?
Ah, moi je suis pas au courant de tout. Je peux pas vous répondre là. Mais enfin, je pense, oui.
Oui. Mais on va peut-être pas à l'essentiel. On se disperse un petit peu.
C'est-à-dire un des essentiels. Hein. C'est-à-dire nous, on nous a pas ouvert la porte d'intégrer la notion de troubles de type aphasique et de leur réduction par notre thérapeutique n'a pas été intégrée. Je vous dis, il a fallu 30 ans pour qu'il y ait un cours à l'école d'orthophonie de Paris sur les troubles de type aphasique par une de mes élèves.
On parle beaucoup de dyslexie aussi aujourd'hui dans On se dit tout, c'est souvent lié aussi. Et Lisa est avec nous en Lozère. Bonjour Lisa.
Bonjour.
Vous êtes dyslexique, vous avez fait 8 ans d'orthophonie. C'était quoi la difficulté pour vous ? C'était lire, écrire ? Les deux ?
Un peu les deux.
Un peu les deux, oui.
D'accord. Donc au début, c'était surtout la lecture parce qu'en CP, on vous apprend à lire avant d'écrire. Et c'est vrai que j'ai eu 2 ans de flou avec un enseignant qui n'a pas su, qui n'a pas compris que j'étais dyslexique.
Et il vous disait quoi, cet enseignant ? Il vous grondait un petit peu ?
Et il nous grondait. On était 3 dans ce cas-là, dans la classe, et on était mis de côté. Et après, c'est nos parents qui ont pris en charge tout ce qui était orthophoniste.
Mmh. Mais c'est vrai que quand on ne sait pas, on a l'impression d'être nul, non ? Ça donne un petit peu cet effet-là, Lisa ?
Ah ben oui, de ne pas y arriver, de jamais rien faire de sa vie non plus.
8 ans d'orthophonie, c'est pas rien quand même, hein ?
Non.
Qu'est-ce que vous avez appris ou réappris à ce moment-là ?
Donc j'ai appris tout simplement à lire et à écrire. Parce que je suis arrivée en CE1, même CE2, et je ne savais ni lire ni écrire.
Mmh.
Donc c'est très dur en étant enfant, avec d'autres enfants qui savent lire et écrire.
Et c'était pas votre faute en plus.
Non, mais c'est très compliqué en tant qu'enfant.
Ouais, ça je veux bien croire. Et aujourd'hui, il y a toujours cette hésitation, ou est-ce que maintenant ça y est, tout est naturel pour vous ?
Oh non, les P et les B par exemple, j'y arriverai jamais je pense.
Bon, c'est pas grave ça.
On l'entend pas, hein. On se dit qu'on l'entend pas.
Ah, je disais que justement, il y a des choses, ça va beaucoup mieux, mais il y a certaines lettres qui pour moi se ressemblent. Le P et le B. Donc j'ai du mal.
8 ans d'orthophonie, ça, vous trouvez ça normal entre guillemets, Gisèle ?
Dans un sens. C'est-à-dire que de toute façon, c'est long.
Hein. Oui.
Et vous avez l'orthophonie classique, donc celle qu'a eu suivi, je pense, madame, qui prend du temps, mais avec des résultats palpables, si vous voulez, sans que ce soit la perfection, avec des petits restes, c'est sûr. Moi, les cas dont je parle, c'est là où ça ne donne rien.
Oui, ou même ce travail-là ne donne
beaucoup.
Rien.
Mmh. Ah.
Merci beaucoup Lisa d'avoir été avec nous, d'être venue témoigner sur France Bleu. On vous embrasse avec un P et un B même dedans. Voilà, s'il n'y en a pas.
Merci beaucoup, bonne journée à vous.
Au revoir Lisa. On continue d'en parler avec vous. L'illettrisme, c'est le sujet dont se dit tout. C'est pas un sujet facile et on le sent bien avec vos témoignages, mais il faut en parler, c'est important.
Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
On parle aujourd'hui de l'illettrisme dans On se dit tout avec vos témoignages au 0810 055 056. Il existe des gens comme vous qui sont allés à l'école et qui sont aujourd'hui dans l'incapacité de maîtriser la lecture ou l'écriture. Et ça concerne quand même 2 500 000 personnes en France aujourd'hui, 7% de la population. Ça veut dire que c'est peut-être vous ou un membre de votre famille. Comment tout ça est arrivé ? Comment vous avez réussi malgré ce handicap entre guillemets ? Comment vous avez trouvé des parades pour jamais qu'on vous remarque. Et puis j'espère aussi qu'on aura des auditeurs qui ont décidé à un moment donné de changer tout ça, de reprendre les bases, de reprendre des cours. 0810 055 056, c'est le numéro dont se dit tout. Je ne sais pas lire ni écrire avec notre grand témoin aujourd'hui, Gisèle Gelbert, auteur du livre Au cœur des apprentissages fondamentaux chez Albin Michel. On en parlait un petit peu comme ça entre nous, entre deux disques, Gisèle. C'est vrai que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents n'allaient pas beaucoup à l'école, pas très longtemps, et malgré tout, ils maîtrisaient cette lecture, cette écriture en très peu d'années finalement.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il s'est passé qu'on a fait la croix là-dessus parce que c'était vieux, c'était du passé, alors qu'ils avaient certainement les bonnes méthodes, c'est-à-dire les méthodes syllabiques et faire ressortir la voyelle vide qui nous fait dire P quand on voit un P et de chanter tous ensemble P à pas, P au pot, pas peu pipo. Voilà.
Ah oui, d'accord.
Ah oui, c'est ça.
C'est la base.
Je vois toute une classe chantant ça. Bé, abba, bé, obo, babo. Et ce qu'on faisait autrefois.
D'accord.
Et ça a donné des résultats.
On part en Meurthe-et-Moselle, si vous voulez bien rejoindre Rachel. Bonjour Rachel.
Bonjour.
Votre enfant, on va parler de lui ou d'elle. C'est une fille ou un garçon ?
C'est un garçon. Qui a 16 ans aujourd'hui.
Qui est dyslexique et dysorthographique. Orthographiste, c'est pas facile à dire.
Orthographique. Oui, il a une dyslexie, une dysorthographie qui a été décelée en fin de compte très très tard. C'est un enfant qui a eu un trauma crânien à l'âge de 5 ans et on ne nous a jamais dit que cet enfant aurait dû avoir de la rééducation cognitive. Donc déjà, on est passé à côté de beaucoup de choses et sa dyslexie et dysorthographie a été détectée très tard malgré un suivi orthophonique de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 11 ans. Et c'est un gamin qui a commencé à déprimer, qui ne voulait plus aller à l'école. Donc on a été dirigé sur d'autres personnes et ces personnes ont été scandalisées de voir que l'orthophoniste n'avait jamais décelé qu'il était dyslexique et dysorthographique, malgré qu'elle s'en occupait depuis longtemps. Et après tout cela, on nous a fait faire de la rééducation cognitive pour Thomas et en fin de compte, il a récupéré une partie de sa mémoire et c'est un enfant qui va bien aujourd'hui et qui évolue très bien.
Bah ça va, heureusement. Hein, j'ai envie de dire heureusement que vous avez trouvé la bonne méthode, la bonne personne peut-être aussi.
Ah ben on a trouvé les bonnes personnes et ce que je voudrais dire, c'est quand un enfant subit aussi un grave trauma crânien, ce qui serait bien, c'est de dire aux parents que les enfants ont besoin de rééducation cognitive.
Ça consiste en quoi la rééducation cognitive, Rachel ?
En fin de compte, ce sont des petites. En fin de compte, c'est un travail sur ordinateur et on lui fait faire. C'est des images qui sont cachées et puis il doit retrouver un petit peu les chiffres, les images pour récupérer une partie de sa mémoire.
On a des cerveaux qui fonctionnent pas tous pareil, Gisèle Gelbert. On n'a pas tous la même façon d'apprendre, d'aller capter les infos.
Oui, mais enfin, en gros, c'est la même chose quand même.
Oui.
Et là, il est certain que je ne sais pas si c'est une relation directe avec le traumatisme. Mais enfin, c'est autre chose que le fonctionnement cognitif, il est sous-jacent au langage. Donc là, si ça a été utile, ça lui a permis d'utiliser le langage et d'aller au-delà de la dyslexie, dysorthographie.
Merci beaucoup Rachel d'être venue témoigner. Un gros bisou à votre fiston, votre grand fiston de 16 ans. Et la dernière partie dans ce dito arrive dans un instant. On parle de l'illettrisme aujourd'hui avec vos témoignages au 0810 055 056.
Des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleu.
Sur les 2 500 000 personnes touchées par l'illettrisme en France, la moitié travaille. Oui, on peut donc travailler sans savoir ni lire ni écrire, mais c'est aussi beaucoup d'efforts pour ne rien montrer. Aujourd'hui, on a décidé d'en parler ensemble sur France Bleu. Vous êtes allé à l'école, mais vous ne savez pas lire ni écrire. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre parcours scolaire? Et puis, qu'est-ce qui se passe ensuite quand on cherche du travail, qu'on doit envoyer une candidature, quand on veut lire une notice, qu'on a des enfants, qu'on doit remplir les papiers pour l'école? On en parle avec vous et Gisèle Gelbert, auteur du livre Au cœur des apprentissages fondamentaux, parler puis écrire puis lire aux éditions Albin Michel. Et nous partons dans les Deux-Sèvres avec Valérie. Bonjour Valérie.
Bonjour Vanessa. Bonjour madame. Bonjour.
Vous avez été dyslexique, ça a pris du temps, mais vous avez réussi à vous soigner, entre guillemets.
C'est ça. En fait, c'était très long, je ne savais pas ce que j'avais. Je arrivais très bien à être logique, mathématique et tout ça. Et puis à un moment donné, je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à lire, à écrire correctement suite à des dictées que je faisais et on m'a dit fallait trouver une solution parce que autrement je pouvais pas continuer ma vie professionnelle. Donc voilà.
Et comment vous avez fait alors? Qui vous a aidé?
En fait, c'est une amie à moi qui m'a dit que j'étais dyslexique, qu'il fallait que je voie un médecin et j'ai fait voir donc mon médecin qui m'a donné des cours 20 cours d'orthophoniste, que je me suis déplacée pour voir cette dame d'orthophoniste qui m'a donné des clés de prononciation avec des étiquettes que je mettais sur les frigos, les placards, tout ce qui me posait des difficultés de prononciation avec les plaies, les bleus, les creux. Et j'avais des étiquettes partout dans la maison et j'apprenais, je les voyais tous les jours et toutes ces clés... les pancartes de sur les routes automobiles. Quand je bougeais en voiture, je lisais de plus en plus vite. C'est comme ça que j'ai réparé mon cerveau, en fait.
Et c'est vrai qu'on revient à la base, finalement. C'est ce qu'on dit depuis le début. Hein. C'est l'apprentissage
du départ. C'est l'orthophonie classique, là, qui reprend. Et ça suit une certaine logique. Tandis que dans les troubles de type aphasique, il n'y a pas de logique.
Vous en parlez beaucoup hein, des troubles de type aphasique. Oui. Là, c'est vraiment le cerveau qui est touché. C'est pas l'apprentissage en lui-même.
Non, c'est-à-dire c'est le cerveau sur les réseaux, mais c'est toujours le cerveau de toute façon. Ouais. Mais là, ce sont les bizarreries. Par exemple, un garçon qui reconnaît le A et peut dire le A sur une petite, sur un petit tableau, et quand on lui montre la phrase Jean a mangé, il n'arrive pas à lire le A. Oui, c'est bizarre, c'est pas logique justement.
Ouais.
C'est pas une reconnaissance simple de forme et de son.
On a entendu beaucoup de témoignages de personnes dyslexiques. C'est la première conséquence finalement.
C'est une étiquette que je pratique aussi parce que c'est ça que tout le monde connaît. Quand il y a des troubles de lecture, hein, qui sont différents des petites difficultés d'apprentissage, on est dyslexique, oui.
Et est-ce qu'aujourd'hui, Valérie, vous dites j'ai été dyslexique ou est-ce qu'on l'est toujours finalement un petit peu? Ou est-ce qu'aujourd'hui c'est derrière vous?
J'aimerais que ça soit derrière moi, mais j'ai des troubles de temps en temps quand je suis fatiguée, j'ai du mal à écrire, j'ai du mal à lire. Je reprends des livres, des petits livres de lecture pour me remettre d'aplomb. Comme on m'avait donné les clés aussi de reprendre les séries roses, les séries bleues pour les enfants, des toutes petites manuels d'enfants pour reprendre. Et je regarde beaucoup de dictionnaires, j'essaye de mémoriser beaucoup de choses. Ma mémoire a énormément de problèmes et j'essaye de dépasser tout ça. Et il faut être de l'avant parce qu'en ce moment, on n'y arrivera jamais.
Et c'est très courageux de votre part. Merci beaucoup, Valérie. Je vous embrasse. Merci d'avoir été avec nous. Gisèle Gelbert, un dernier mot peut-être pour les parents qui nous écoutent et qui se disent « nous, c'est compliqué ». Quel est le conseil qu'on peut leur donner pour leur enfant ?
C'est de faire un diagnostic.
Le bon diagnostic.
Le bon diagnostic, oui, savoir si vraiment ce sont des difficultés qui ressortissent à un apprentissage qui n'a pas été bien fait. Donc, commencer par faire un apprentissage avec une orthophoniste de la façon classique, si vous voulez, avec des repères, des jalons, comme on fait en orthophonie. Et puis, si ça persiste, alors penser à l'autre secteur, qui est plus que le mien, des troubles de type aphasique, des troubles un peu particuliers, mais qui donnent de très bons résultats quand on applique la thérapeutique qui n'est pas la même que celle de l'orthophonie classique.
Et je rappelle votre livre « Au cœur des apprentissages fondamentaux, parler, puis écrire, puis lire ». C'est aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir été avec nous. Et merci à tous pour vos témoignages. Si vous avez raté le début de l'émission, vous pouvez bien sûr la réécouter en podcast sur notre site francebleu.fr. À demain.